Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones.
Un frais salé, c'est le cépage endémique de notre appellation.
Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue.
Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche.
Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. C'est un nouveau visage sur les terroirs de Janière que celui d'Adrien Delval. Parti de presque rien en 2018, il a réussi un an plus tard à trouver une cave au cœur du coteau de Janière ainsi que quelques parcelles non loin de là. S'il possède aujourd'hui 5 hectares de vignes, il aimerait réduire ses surfaces afin de demeurer le plus indépendant possible. Domaine de la Futaie, Adrien Delval, au cœur de Janière.
Tout le monde passe à la table, ça vous dit, on se met tous autour de la table et puis ouais, comme ça on goûte en même temps. Si à 14h tout le monde peut être parti, c'est parfait parce que je pense qu'il y en a qui ont du boulot. Ouais, sinon je vous mets dehors.
Jamais donné qu'on soit parti. Hein.
Je vais juste chercher, moi je vais juste chercher deux bouteilles.
C'est pas tout le jour qu'un grand journaliste vient
chez nous. Ah oui, c'est vrai.
Alors Renaud s'est croisé hier et on se retrouve ce midi avec toute une bande de vignerons de la région. Mais moi je suis venu voir Adrien. Adrien, tu le connais plus longtemps ?
Ah bah oui, il est venu, c'est vrai qu'il est venu la première fois, il est venu tailler, c'était en quelle année Adrien ? 17 ? 16 ? 17 ? 17, ouais, dis ça. Et quand t'es arrivé d'Alsace, c'est ça. Il est venu dans le coin, il cherchait des vignes pour s'installer, il est venu tailler quelques semaines à la maison, ouais, en 2017.
Quand tu l'as vu au début, il voulait s'installer dans le coin, c'était son objectif ?
Ah bah il était en recherche, on en voit pas mal passer, quoi. Après, comme on en parlait hier, moi dans mon coin, bah il n'y a pas beaucoup de vignes à reprendre, donc c'est assez compliqué. Comme c'est très compliqué déjà de retrouver quelques vignes qui soient en état et ensuite de les remettre en production et de trouver des terrains autour pour replanter. À mon avis, il a fait le bon choix de pouvoir s'installer dans le coin ici, quoi.
Oui, il y a plus de densité de vignes plantées et de reprises possibles.
Il y a encore pas mal de... Enfin, moi, je me souviens que quand je me suis installé, la moitié des vins étaient encore produits par des particuliers. Tous ces gens-là, c'est des gens qui progressivement arrêtent, là, depuis 15-20 ans, quoi.
Comment on accompagne des jeunes qui veulent s'installer comme ça dans le coin ?
Comment on accompagne ? Moi, je l'ai pas, j'avoue, j'ai pas beaucoup accompagné. Après, il s'est rapproché. On est quand même à... On est presque à une de bière, hein. Donc on se voit pas tous les jours non plus.
Vous échangez malgré tout sur, je sais pas, des vinifs, des millésimes compliqués, des galères, des...
On échange un peu, ouais, on échange un peu, on s'est vu. Bon là, justement, on n'a pas fait la réunion de fin de vendange qu'Adrien avait pourtant organisée, mais je crois qu'il était grippé, donc il a pas pu venir. On l'a fait sans lui. On se voit au moins deux ou trois fois par an, quoi.
On aime bien se regrouper pour manger et partager des moments, mais c'est pas si souvent que ça, parce qu'on est tous bien occupés. Mais quand on a besoin de conseils, on est capable de s'appeler, puis de se donner des conseils, c'est bienvenu. C'est bienvenu, moi j'ai eu la chance d'apprendre un peu de tout le monde là, autour de cette table. Peu importe les âges, hein, Jean-Pierre, Clément, Renaud...
7 à 77 ans.
C'est ça, même plus pour certains. Non mais carrément, c'est l'idée, c'est de partager. On a tous des interrogations, puis nous quand on commence, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Puis il y a des choses qu'on apprend à l'école, qu'on désapprend aussi.
Alors Jean-Pierre Robineau, Langevin.
Oui, tout à fait.
Adrien, tu le connais depuis longtemps ?
Bah, je le connais depuis qu'il est arrivé, oui. C'est un mec bien.
Qu'est-ce qu'il a de bien
hein? Bah, il est gentil, il est surtout... il est prêt à rendre service à beaucoup de monde. Un peu trop, je crois même. Donc, il faudrait qu'il se remette en cause. Parce qu'il était gentil. Moi, je suis tombé au panne d'atomiseur. Donc, tout de suite, il m'a prêté son atomiseur toute la saison, tu vois. On s'est débrouillé, tu vois. Donc, c'est un homme qui rend service... Dès qu'il peut rendre service, il rend service. Donc c'est quand même superbe.
Toi qui es installé dans cette partie de la Loire depuis quelques années maintenant.
Je suis à mon 22e millésime.
Comment tu vois l'arrivée de jeunes vignerons comme ça ? Ça te fait plaisir ? C'est nouveau ? Il y a une petite vague qu'on n'avait pas quand tu t'es installé il y a 20 ans par exemple ?
Non, il y avait Eric Nicolas, et puis moi, et puis il y a eu Chauchard qui est arrivé après. Et puis après, cette génération qui arrive, on est quand même... très heureux parce qu'ils sont là pour bouleverser, bousculer un petit peu le monde d'aujourd'hui, tu vois. Ils arrivent, ils ont des idées bien, bien précises, ils respectent la vigne, ils sont tous en bio, tu vois. Tous les jeunes qui arrivent travaillent bien.
Et ça, c'est nouveau dans le coin, objectivement ?
Ah bah oui, c'est nouveau. Parce que les anciens, jusqu'à maintenant, ils ne voulaient pas tellement bouger. C'est les jeunes qui vont changer la face du monde. Ah oui, il y a eu Eric Nicolas qui est venu le premier, hein, et puis après c'était moi. Bon, il y avait Gigou aussi, qui est maintenant en bio, Jardin qui travaille bien, etc. Il y avait une petite équipe là.
Donc tu vois ça d'un super bon œil, et ça apporte quelque chose de super positif dans,
sur les coteaux du Loir et sur Janière au sens large.
Bien sûr, parce que mais malheureusement, c'est que les jeunes qui arrivent ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de vigne à reprendre. Parce qu'il y a tous les anciens qui sont là, dès qu'ils peuvent prendre une vigne, ils le prennent. Et comme ils ont beaucoup d'hectares, et comme il y a très peu, de surface plantée, il n'y a pas grand-chose à prendre.
Alors comment des vignerons comme toi, installés depuis longtemps, peuvent aider des jeunes vignerons comme Adrien quand ils s'installent?
Ah ben moi là, on essaie de l'aider comme on peut, c'est-à-dire qu'à la 10 bouteilles, là, il y a eu les importateurs qui sont venus chez moi, donc je les amène ici pour qu'ils puissent acheter du vin.
Mais tu sers de relais déjà?
Ouais, ouais. Voilà, on essaie de les aider de cette manière-là.
La difficulté, c'est quoi? C'est le foncier surtout? C'est les bâtiments?
C'est-à-dire que le foncier, oui, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de vignes, donc il faut suffisamment de vignes pour vivre, pour vendre. Il faudrait avoir 10 000, 15 000 bouteilles, 20 000 bouteilles tout de suite pour un jeune, pour qu'il puisse démarrer.
Il faut être un peu maso pour s'installer dans le coin?
Non, pas du tout. Il faut être passionné, c'est tout. La passion te mène au bout du monde.
Qu'est-ce qu'on vous dit, les enfants, là?
On retrouve les vignerons de Bellivière avec qui on était il y a encore quelques heures. Adrien, comment vous le percevez depuis son arrivée dans le coin?
C'est une nouvelle recrue très vif qui apporte beaucoup de peps
à la région.
Ouais, à la région et même à notre groupe de vignerons bio. C'est très agréable, c'est beaucoup de partage en plus. Et un vigneron très prometteur. C'est super parce que ça manquait un peu, on a manqué un peu de monde et un peu de gens comme ça dynamiques qui permettent aussi de fédérer et de pouvoir partager parce que c'est notre métier de base, quoi, le partage, donc c'est agréable.
Sur Janière, Coteau du Loir, ou même pour ceux qui sont hors des clous de l'appellation, auraient besoin d'un peu plus de force vive comme ça?
Ouais, ça fait jamais de mal de mer, c'est toujours bon à prendre, donc quand on peut le prendre, faut le prendre.
Vous goûtez ces vins de temps en temps, comment vous avez vu évoluer ces vins depuis son installation par exemple?
Il y a une évolution sur la pureté. Après, ils statent aussi sur les vinifs. Donc, y a forcément des questionnements qu'on ressent en dégustation. Je pense que la base est bien solide. Donc, une fois qu'il aura fini de jauger, et puis bon, il faut aussi appréhender le terroir, appréhender les millésimes qui sont pas faciles. Je pense que ça donnera des très belles choses.
Vignons à suivre.
Ouais, carrément.
Là, je viens de le goûter.
Monsieur. Oh là là, alors on peut en mettre plus. Oh, on avait un pâté de quoi, on en avait 10 kilos. Alors ça,
c'est 2021 d'ici. Donc 2021, année pas très solaire.
En 2021, du coup, c'était une année un peu compliquée pour les vignons, parce que du coup, on a gelé, je sais pas la moyenne locale, mais au moins 50%. Et puis, il y a certaines zones moins proches de Janière qu'on grêlait. Peu de récoltes. Au niveau de la vendange, c'était assez pluvieux. Donc, on a eu des raisins plutôt moyennement mûrs, mais du coup, sur des belles tensions. Ça donne pas très mûr et ça pourrissait. Du coup, on a quand même réussi avec le tri à rentrer des petits volumes, mais pour un ordre d'idée, moi, j'ai sorti 3000 bouteilles, là où normalement, j'en sors 10 000, quoi. Et on a bossé plus encore, parce que d'habitude, on vendange 6 à 7 jours, et là, on a vendangé 10 jours. C'est-à-dire qu'on a dû énormément trier, encore plus sur les rouges.
Donc là, c'est ton Janière qu'on goûte, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Janière 21, qui est sur une parcelle qui est juste à côté, qui était exploitée avant par Christian Chaussard, qui s'appelle la parcelle des longues vignes, qui est un coteau plein sud, et on est dans le terroir en fait là. On est sous terre, donc on est dans la tuf, et on verra plus loin. En fait, il y a des veines d'argile qui descendent. Au-dessus de nous, on est dans les janières, et donc c'est pas mes vignes, mais il y a des racines qui descendent jusque dans les caves par exemple. Mais c'est assez fou parce que ici on a une cave, mais si on creuse 5 mètres en dessous, il y a une autre cave. Et du coup, pas besoin de climatisation, c'est climatisé naturellement. On voit les anciens, ils vinifiaient ici, il y a l'ancien pressoir qui est là, ils pressaient ici, ça tombait là, puis ça s'était mis en barrique directement, quoi.
Qu'est-ce qui t'a plu en t'installant ici là, par rapport à tous les vignerons qui sont autour de la table ce midi?
Moi, j'ai grandi dans le nord de la Sarthe. Honnêtement, je savais même pas qu'on faisait du vin dans la Sarthe à la base, pour être tout à fait honnête. J'ai découvert le monde du vin via mes parents qui aiment bien manger et bien boire. Il n'y a pas beaucoup de régions où, pour quelqu'un qui n'a pas d'argent ou peu d'argent, où on peut s'installer. Quand je suis rentré de voyage de Nouvelle-Zélande, j'ai cherché un endroit pour travailler. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas en Sarthe finalement, parce que j'avais goûté les vins, c'est très drôle, les premiers janières que j'ai goûté, je les ai goûtés en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est assez fou. Et quand je suis rentré, ben, j'ai fait le tour un peu de tout le monde, donc ouais, j'ai goûté un peu chez tout le monde. Ben, j'ai bossé un peu chez Sébastien, j'ai bossé un peu chez Renaud, j'ai été bosser un peu à la chevalerie à Bourgueil, et puis j'ai récupéré des vignes, ben, comme disait Renaud, quoi, via des anciens qui faisaient plutôt de la polyculture, quoi, qui avaient des vignes à côté et tout. Puis ça a commencé à 1 hectare, 2 hectares. Et
t'as
puis...
construit ton domaine ouais, comme un puzzle.
N'existait pas avant, enfin je veux dire il y avait une cave ici mais ça, elle était à l'abandon depuis très longtemps et à construire au début c'est des risques quoi, mais moi je suis passionné par ce que je fais, j'adore rien que ça là, de se regrouper tous ensemble, j'adore ça et puis la vigne et le vin c'est hyper passionnant parce que ça regroupe la gastronomie, ça regroupe plein de choses et j'aime bien manger, bien boire et puis participer à des bons moments avec des amis, c'est très chouette quoi, voilà j'espère que ça continuera quoi.
Et aujourd'hui t'as quelle taille de domaine du coup?
J'ai 5 hectares mais l'avenir peut-être réduira la taille du domaine parce que je vais peut-être revenir tout seul sur plus petit pour monter des projets plutôt en diversifiant les types de production parce qu'avec Jeanne qui est juste autour de cette table et son copain on fait du poiré, du cidre aussi comme ça pour s'entraîner en petite quantité. On se rend compte que ben, la monoculture ça a des côtés hyper intéressants mais parce qu'il faut être professionnel du vin pour vraiment faire des bons vins mais par contre ben, quand il y a des risques climatiques c'est vite compliqué quoi.
C'est bien d'avoir des plans B entre
voilà,
guillemets.
C'est ça ouais, un plan B c'est pas mal.
Bon qu'est-ce qu'on goûte après le 2000
J'ai un 2019 si vous voulez. 2019. En 2019 c'était sur les premières barriques de la forêt de Bercé. Donc elle s'est un peu plus marquée.
Un peu plus marqué par le bois.
Un petit peu plus marqué par le bois, même si on a essayé de... C'est pas à 100%, c'est qu'un tiers en bois neuf. C'était mon plaisir d'installation. Je me suis acheté deux demi-muits avec du bois de la forêt de Bercé, parce que moi j'ai une formation en gestion des forêts, donc j'ai passé énormément de temps dans les forêts sartoises. Bah, l'idée c'est de vinifier dans le terroir, c'est pas mal.
Ouais, c'est vraiment notre forêt.
Ouais, c'est clairement.
Qui fait je sais pas combien, 5000 hectares. C'est l'une des plus belles forêts d'Europe, qui est bien cultivée, bien gérée par l'ONF. Et il y a des bois fantastiques. Il y a des chênes qui ont 250 ans, 300 ans. Mais bon, les plus beaux chênes, qui coûtent une fortune, tous les marins, ils partent chez Petrus, Motorotier, la ramener Coty, dans les grands domaines, parce que la barrique, elle coûte 4500 euros ou 5000 euros, parce que plus... Les chênes sont vieux, c'est sur des gros terroirs, donc il y a une finesse de bois.
Mais il n'y a plus de tonneliers dans le coin?
Ah non, non, mais...
Il y en avait un dans le village
avant. Attends, oui, à Chaigne, moi quand j'étais jeune à Chaigne, puisque je suis né à Chaigne juste à côté, il y en avait un, il y en avait deux, et il y en avait un qui chauffait dans la rue, en bois de châtaignier, parce que c'était le bois d'origine. Dans tous les bois, il y a des châtaigniers, et ça coûtait beaucoup moins cher.
Qu'est-ce que tu as? Ça, c'est Janier 21.
Non, 2019.
Ah, mais non, je t'ai pas servi. Ouais. Ça doit être le verre d'avant, ça.
Hop, donc Janier 19. Donc première vinification vraiment officielle, quoi. Ouais, ça va, c'était pas mal. Ouais. Bon, il y avait eu une petite coupe de gelée quand même, mais pas grand chose, quoi. Hop, tiens, je te laisse faire passer Janier 19, du coup.
T'as beaucoup échangé avec tes voisins quand tu parles de ta première vinification en 19 ou...
Beaucoup non. J'avoue, j'ai beaucoup au début, vu que je travaillais chez Sébastien. Ouais, c'est vrai qu'avec Renaud, j'ai pas beaucoup échangé. J'ai beaucoup échangé avec Sébastien parce que je bossais...
Domaine
de la Roche-Bleue parce que je bossais là-bas. Quand on a des galères, ouais, des fois, ça m'arrive de passer des coups de fil. Puis des fois, on a des réponses, mais on les écoute pas. On regrette après ou pas.
Ça sent l'exemple concret, là.
Moi, j'ai voulu passer assez vite en 0-0 soufre et ça m'a valu des petits détours un peu malencontreux sur 2020, mais on a réussi à rattraper le coche, donc ça va.
Ouais, je vais aller voir Sébastien, du coup, parce qu'il t'a couvé pendant quelques
ouais,
temps,
quelques
c'est
mois,
ça
ouais. Oh, couvé.
Donc Sébastien, de la Roche Bleue.
Il était bien grand, j'avais plus trop besoin de le couvrir.
Combien de temps il est resté chez toi, Adrien?
Il a fait une saison, à peine une saison viticole, mais en alternance, en saisonnier entre guillemets. Il intervenait en fonction des besoins du domaine, mais sur toute la partie végétative. C'est un bon gars, un chouette gars, plein de dynamisme, plein de volonté. Quelqu'un qui va aller vite.
Trop vite des fois?
Peut-être des fois un peu trop vite. Faut des fois dire les choses telles qu'elles sont. Non, c'est quelqu'un qui est plein de dynamisme, plein d'envie. La chronologie du vin et la temporalité du vin nécessitent des fois un peu plus de temps. Voilà, mais quelqu'un de chouette et rassembleur et partageur et plein d'idées et d'échanges. Donc ça, c'est top.
C'est précieux pour votre région, votre vignoble?
Ah, bien sûr, ouais. Je pense qu'on a quand même une bonne entente globale entre bio, en tout cas, ce qui n'est peut-être pas le cas de toute l'appellation. Mais entre nous, il y a quand même une volonté de partage, en tout cas. Chacun a son rythme et chacun en fonction de ses... de ses désirs et d'échanges, mais ce qui n'était pas le cas, moi, quand je suis arrivé il y a 15 ans, c'était un peu plus fermé. Et
là, plus isolé.
Plus isolé. Alors que là, maintenant, il y a vraiment une volonté d'échange. On se rend compte que tout évolue, tout change. Et on sent une volonté de tout le monde de partager, de comprendre ce qui se passe, cette évolution.
Mais on va partager déjà qu'on a dans notre assiette et dans nos verres respectifs, avant de
c'est
continuer.
Bon, hein. J'imagine que tu as pu le découvrir.
Oh, tiens, oh, ça. Oh, je sais pas ce que c'est, ça. C'est à toi, ça. Du 22 sec. Bon, alors tout ça. C'est quelques verres. T'en as deux verres, quoi. Merci. Et Roger, 2020. Alors, on va goûter maintenant, Charme, 2020. Oui, oui, mais on... Merci, ça va, 2009, c'est un gros millésime. Non, j'ai passé 2009 là. Non, non, c'est pas. Non, j'ai pas. Le film de Denis, on va le voir. Canapé, c'est bien que c'est un grand étage. 2014, année, gros de l'année. Alors, je vais vous faire goûter 2004 qui est resté 3 ans sur lui. 2004, oui. Sans tout de suite, hein. Ouais. Alors pour la santé, pas, je ne l'ai jamais survie avant. Ah, ça va être depuis des millénaires, hein. Des millénaires, bon, là, souris. Alors là, j'en sais rien, je n'ai jamais été à la fin. Je sens même pas la souris. Je sens à même.
Ça tombe pas.
2004, ah bah si tu n'aimes pas le blanc, c'est pas grave. Ah, c'est du, hein. Mais Jean-Pierre, t'es un magicien. Tu l'as bien soutenu.
Les vins sont pas
rentrés. Mais on les a pas vendus en fait. C'est ça le problème, on a payé.
Là, vous êtes dans un fou.
On a payé beaucoup de vins, on a raté.
Bon, là, je vous ai fait un service 2003. 2003, 3 ans d'élevage en Paris. L'année de la saison. Pour garder du vin dans la salle. Je dis là, quand on goûte ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien.
Bah merci.
Au plaisir.
À une prochaine.
Allez, à
une prochaine.
Ah oui.
Il est vide.
Non, non, vas-y, on est venu.
Et merci pour ça, Saint-Vincent qui était extraordinaire.
Adrien, tu me disais que tu avais construit ton domaine petit à petit, parcelle par parcelle. Ça a été compliqué à trouver ces différentes vignes ?
Au début, non, parce que ça m'est tombé par hasard. Je cherchais du travail, on m'a proposé des vignes. Après, j'ai mis des petites pancartes dans les vignes sous plastique, les vignes abandonnées que je croisais. Donc, je suis monté à 2 hectares comme ça. Et après, ben...
Juste en ayant l'œil, en regardant, furetant un peu à droite, à gauche.
Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, en travaillant dans mes vignes, j'ai découvert la campagne locale et j'ai eu l'occasion de récupérer des vignes. Et puis après, certains vignerons m'ont fait confiance et m'ont laissé des vignes qu'eux ne voulaient plus. Et puis après, j'ai récupéré 1 hectare de janières collées à la cave parce qu'elles étaient en disponibilité. Et la France est bien faite. Les jeunes agriculteurs bio étaient prioritaires sur cette parcelle si ils vinifiaient en appellation. Après, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Ça prend un peu de temps.
Mais, t'as mis combien de temps pour avoir ton domaine aujourd'hui ?
Vraiment l'installation complète, j'ai commencé en 2017 avec 30 arts, en 2018 j'avais 2 hectares et en 2019 on était monté à 3,5, aujourd'hui on est à 5.
Le fait de faire du janière, c'est important pour toi ? Ça a vraiment une signification ?
J'ai beaucoup changé d'avis sur l'appellation. Au début, je voulais vraiment faire que du vin de France. Je trouvais que l'intérêt des appellations n'était plus actuel. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont battus pour ces appellations, pour tirer les vins vers le haut et faire des vins de qualité. Si on tirait toujours vers ça, oui, c'est toujours très important pour moi, finalement, les appellations, si on tire vers des vins de qualité. Peut-être qu'il y a certaines choses à changer qui sont un peu longues, mais je pense que c'est intéressant de faire les deux aujourd'hui. Si on veut faire changer les appellations, bah, il faut en faire partie. Être exclu de la chose, c'est compliqué pour faire changer les choses. Il y a du bon dans tout et je pense qu'il faut essayer de modifier les appellations pour tirer vers de la qualité et surtout montrer que nos terroirs, ils sont valorisables et que c'est des grands terroirs, quoi.
De dire que l'hectare de Janière serait plus fort que les autres, je pense que ça serait présomptueux parce qu'il y a des coteaux aussi qui sont en Coteau du Loir, une autre appellation ou hors appellation, qui valent le coup. Mais par contre, historiquement, oui, ça a été représenté. Et on voit bien que par rapport aux catastrophes climatiques, il y a certaines zones qui sont moins exposées que d'autres. On est capable de goûter des janières qui ont quand même dans la région 100 ans, 200 ans, qui étaient plutôt des liquoreux. Mais on est capable quand même de goûter des vieux vins qui goûtent super bien. Et quand même, je connais aucun produit gastronomique qui se garde plus de 200 ans, quoi.
T'as eu l'occasion d'en goûter déjà ?
Oui, j'ai eu l'occasion de goûter des 1803 dans des caves du coin. C'était exceptionnel. Et puis, on a l'occasion, tout à l'heure, on croisait Jean-Pierre, mais on a de l'occasion aussi avec les vignerons qui sont installés depuis plus de 10-15 ans, de goûter des vins qui, quand même, durent dans le temps et qui, en plus, se retrouvent sur des tables de gastronomie française de grande qualité. Donc, oui, on se rend compte qu'en vieillissant, c'est quand même des terroirs qui sont hyper valorisés au niveau de leur minéralité, de leur tension et puis de la durée dans le temps, quoi. On a des vins jeunes qui goûtent encore des vins jeunes alors qu'ils ont déjà 20 ans ou 30 ans, quoi.
Est-ce que, avec le temps, tu as appris, je dirais, à avoir une forme de fierté, peut-être que tu n'avais pas au départ quand tu voulais faire que des vins de France? Est-ce que, ouais, aujourd'hui, tu as quand même, t'es content de faire du Janière?
Je suis content d'en faire. Après, en soi, moi, je suis très heureux de faire du vin. C'est ma passion. Qui écrit Janière sur la bouteille, ça me rend pas malheureux. Ça me rend pas heureux. Par contre, commercialement parlant, il faut être honnête, ça permet de rentrer dans des endroits où on ne rentrerait pas sans appellation, puisque aujourd'hui, les vins de France, ils sont pas encore au même grade que les vins d'appellation, alors qu'il y en a qui le méritent largement. Je suis quand même fier de faire partie d'un groupe de vignerons locaux qui aujourd'hui sont fiers de faire du Janière et de le valoriser. Donc je suis entre, comme on dit, je suis le cul entre deux chaises. Oui, j'en suis fier, mais c'est pas ça qui me
fait... C'est pas une fin en soi pour toi.
Non, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est d'essayer de tirer vers le meilleur vin possible avec moi ce que j'attends et mon cahier des charges personnel pour faire le meilleur vin que j'ai envie de faire et qui me plaît à moi surtout, et qui plaît aux autres aussi, mais...
Donc tu as la particularité de vouloir faire des vins vraiment avec le minimum d'énergie au sens large dépensé. Alors c'est pas pour ça que tu mouilles pas le maillot, bien au contraire, mais c'est plus dans ton travail, tu veux essayer de t'affranchir au maximum d'outils qui demandent de l'énergie.
L'idée de base, c'est que on peut faire du vin avec le moins de consommation d'énergie. On est tous en train d'y réfléchir dans les activités diverses et variées. Ben, nos ancêtres, certains faisaient des vins sans électricité, puisqu'il n'y en avait pas, de toute façon. Même si aujourd'hui, on est éclairé par de l'électricité dans cette cave, mais on peut le faire. J'ai envie de tirer vers ça. Après, tout est améliorable, quoi. Mais moi, l'idée, c'était surtout de m'affranchir de matériel que je ne suis pas en capacité de réparer. Je ne suis pas ingénieur. Réparer un pressoir pneumatique, j'ai pas les capacités, je suis obligé d'appeler quelqu'un. On est loin de tout réparateur et voilà. L'idée, c'était vraiment d'être autonome au maximum. C'est encore améliorable. Je trouve que c'est une bonne idée et je vais essayer de tirer vers ça. Ouais.
Et ça marche, ouais, grosso modo, ou il y a quelques points quand même sur lesquels c'est compliqué?
Bah aujourd'hui, je fais pas de traction animale sur la surface que j'ai. Je suis pas formé, mais pourquoi pas à l'avenir. J'ai une pompe électrique, ce que j'aimerais bien changer. Il y a des points améliorables aujourd'hui. Après, on est dans une cave où tout le vin est fait là, tout reste là. Je veux y tendre. Après, d'ici combien de temps, j'en sais rien. Je serais présomptueux de croire que ça sera demain. Ouais.
Dans le prolongement de tout ça, tu t'inscris aussi clairement dans une démarche pleinement naturel.
L'idée, c'est de tirer vers le vin nature. Alors après, les définitions, il y en a plein. Je veux quand même que ça goûte le vin. Oui, l'idée, c'est de tirer vers le vin nature. Alors ça demande de l'expérience, c'est des risques. Quelqu'un qui fait du vin sans rater, s'il y a quelqu'un qui le fait, qu'il me l'explique comment il fait, on est obligé de rater un petit peu. Et voilà, donc oui, il y a des vins avec du soufre, des vins avec moins de soufre, des vins avec pas du tout. Je suis fier quand j'arrive à faire des vins qui me plaisent sans soufre. L'idée, c'est de tirer vers ça. De dire que je ferai 100% de ça demain, j'en suis pas sûr. C'est vers ça que je veux tirer. Ouais.
Tu t'es cassé le nez déjà sur quelques millésimes ?
Je me suis cassé le nez après. C'est le vin, donc on a toujours moyen de remettre du vin d'une autre année, parce qu'il y a des normes. Mais oui, bien sûr, je me suis cassé le nez. En 2022, on avait des raisins magnifiques. Je fais très peu d'analyses parce que c'est une volonté. J'ai envie d'affiner mon palais et tout.
À l'instinct un peu ?
Ouais, un petit peu à l'instinct. Alors, ça a des bons côtés et des mauvais. Voilà, il y avait un manque d'azote dans les moûts, donc ça a eu des difficultés à fermenter. Donc, on a eu des montées de volatilité.
volatile. On trouve des solutions, on a assemblé, on redescend en dessous de la norme, il n'y a pas de souci. Mais c'est des déceptions parce que c'est du travail de toute une année. On joue toute notre année sur quelques semaines. D'un côté, on n'a pas le droit de rater, mais on a aussi le droit de s'améliorer et d'apprendre de nos erreurs. Des fois, on aimerait bien d'écouter les anciens et d'accepter qu'ils ont raison. Mais
tu sous-entends que certains t'avaient un peu mis en garde ?
On m'avait un peu prévenu. Alors après, certains m'ont prévenu, puis certains m'ont dit « Ah, il faut essayer ». Donc je pense qu'on apprend de ses erreurs. L'essentiel, mon grand-père, il disait que c'était pas de les répéter.
Donc on a goûté tout à l'heure des blancs. Et là, tu nous sers des rouges. Donc là, pour le coup, on est en vin de France.
Alors là, on est sur du vin de France. Là, on goûte Bop, qui est un 2022, qui a fait 14 mois d'élevage en fût, qui est vinifié en 70% grappe entière et donc 30% égrappé à la main, qui sont élevés entre 3 semaines et 1 mois en macération en cuve, plutôt méthode traditionnelle, pas de carbonique, et après qui sont directement mis en barrique, assemblés, jus de goutte et jus de presse ensemble. Et là, on est sur du 100% Pinot de Nice, sur des argiles au calcaire à silex, mais avec des argiles ferrugineux, donc des argiles qui sont plutôt rouges, sur une expo plein sud qui est à 15 minutes d'ici, avec en plus avec des vignes qui sont pas spécialement une sélection variétale très très bonne puisque c'est du SO4, mais par contre c'est enherbé, du coup on limite la production grâce à l'enherbement pour pas avoir une surproduction, et ça donne des vins quand même très soyeux qui peuvent passer clairement sur des viandes ou sur des plats épicés. Moi, je le fais beaucoup sur des tagines ou des curries, ça marche super bien. On est collé à une forêt qui s'appelle la forêt de Bercé, qui est une forêt domaniale, qui a été...
Jean-Pierre Robineau nous en parlait il y a quelques instants.
Bah oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai des études en gestion des forêts. C'est pour ça que le domaine s'appelle Domaine de la Futaie, en rapport avec une zone, une parcelle qui s'appelle la Futaie des Clos. Et c'est une forêt qui a été créée qui a été gérée spécialement par Colbert pour qu'on crée des bateaux pour aller envahir les Anglais. Alors, ça n'a pas très bien marché parce qu'on a perdu Waterloo, mais aujourd'hui, on a fait des super barriques. Et du coup, ça, c'est un chêne qui a été nommé d'un nom d'un expert forestier de Nancy. C'est des arbres qui ont 350 ans et qui font 50 mètres. Et 35 mètres sans branche, donc c'est une cathédrale végétale qui est exceptionnelle. Et aujourd'hui, bon, pas dans ce lieu particulier, mais aujourd'hui on fait des barriques, vraiment comme expliquait Jean-Pierre tout à l'heure, pour le monde entier ici. Et donc moi je fais des blancs dans ces barriques là que j'ai fait faire au début, mais par contre voilà, l'idée c'est aussi de représenter le terroir dans nos vins aussi par rapport à cette forêt qui pour moi est un des plus beaux lieux naturels du coin, quoi. Même si au niveau de diversité c'est pas le plus diversifié, mais c'est quand même toute une histoire et ça reste des plantes majestueuses, quoi.
Donc la vinification sans soufre, comment tu l'abordes ?
Donc là on est sur 2022, donc là il n'y a rien eu du tout. Je l'aborde en fonction des millésimes, c'est-à-dire que des millésimes où y a un peu de pourriture, on essaye de diminuer les risques en mettant un tout petit peu de soufre au début, donc entre 1 et 2 grammes hecto sur la sortie du pressoir, et parfois 1 ou 2 grammes à la mise en bouteille, ou rien du tout. Après on essaye d'en mettre le moins possible, parfois même en mettant ça ne marche pas, et parfois sans en mettre ça marche. J'ai pas les tenants, les aboutissants aujourd'hui. J'apprends chaque jour, mais l'idée c'est de ne pas en mettre. Sur certains millésimes, qu'on en mette ou qu'on en mette pas, ça part en vrille un petit peu. Là, sur ce millésime-là, ça a très bien marché.
Un vin qui semble encore très jeune, un vin qui pourrait encore, dans un monde idéal, si tu n'avais pas de trésorerie à gérer, est-ce que tu lui aurais accordé un petit peu plus de temps d'élevage à ce vin ?
Dans un monde idéal, déjà, je ne mettrais pas de soufre si je n'avais pas besoin de trésorerie, parce qu'on pourrait les élever plus longtemps et on se garderait du temps. Oui, dans un monde idéal, c'est des bouteilles que je devrais vendre au bout de 3 ans minimum, voire 5 ans. Et l'idée, c'est de faire des Pinot de Nice qui peuvent vieillir, qui vont évoluer dans le temps, qui vont se marier avec de la gastronomie. Alors, toute la gamme n'est pas comme ça. Il y a des entrées de gamme de soif aussi, parce que j'aime bien aussi.
Là, c'est ton vin un petit peu premium, entre guillemets.
Exactement, c'est le vin premium. Il y a deux vins comme ça. Donc, oui, moi, c'est pour moi, après, j'ai pas encore le retour, puisque ça fait que 5 ans que je suis installé, mais j'ai des vins qui ont 5 ans qui sont encore assez jeunes. C'est des vins qui peuvent se garder 10 à 20 ans. Alors, je sais qu'on n'est plus dans une période où les générations gardent les vins. Mais ça fait quand même très très plaisir à nous tous d'ouvrir une bouteille de son année de naissance et de boire un super bon vin. Moi le premier, mon père a acheté des bouteilles et je suis super content de les sortir à mes anniversaires. Donc j'espère qu'il y aura des gens qui feront la même chose avec mes vins, quoi.
Autour de nous, de la fibre, un peu d'inox, Beaucoup de bois, c'est vraiment ton support de prédilection ?
La fibre et l'inox voient très peu d'élevage, à part des vins de soif.
C'est pour les vinifs ?
Ouais, beaucoup pour les vinifs, peut-être quelques vins de soif. Mais ouais, le support de prédilection, au vu de ma formation en gestion des forêts à la base, je suis quand même un passionné de bois. Ouais, l'élevage en bois, hyper intéressant. Alors, très peu en bois neuf. L'idée, c'est maximum un tiers des cuvées, même s'il y a des cuvées qui ne voient pas de bois neuf du tout. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a quand même du mouvement. Alors, pas autant que dans des amphores ou dans des œufs, mais il y a quand même du mouvement qui se crée, des lits, etc. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis, ça reste quelque chose de quand même très historique français, quoi. Soi-disant, on a inventé la barrique... en France, donc moi c'est quelque chose qui me tient à cœur et puis c'est un bel objet quoi.
En goûtant ce vin, on sent qu'il y a un joli jus, il y a de la tonicité, il y a de la concentration. En fin de bouche, petite rugosité, est-ce que d'autres contenants que le bois pourraient patiner un petit peu ou gommer un petit peu cette rugosité que je trouve, c'est peut-être très personnel. Hein.
Non, c'est vrai qu'il y a des tanins qui ne sont pas encore fondus, donc c'est quand même un peu râpeux en effet en fin de bouche. Alors, il est encore jeune, comme on le disait tout à l'heure. En effet...
C'est pour ça que je te posais la question de l'élevage tout à l'heure.
Non, mais aucun problème. J'ai pas encore essayé. Moi, j'aimerais vraiment essayer les œufs en grès pour voir si c'est intéressant. Alors après, je commence, donc il y a une question de budget, mais pourquoi pas. Après, c'est vraiment une volonté d'extraire ces tanins qui vont protéger le vin.
Qui vont tenir le vin aussi,
voilà, plutôt toi. Il faut quand même que le vin ait un peu de matière pour vieillir. Après, oui, j'ai bien envie d'essayer d'autres choses, mais l'idée, c'est pas spécialement l'inox et le plastique. Moi, j'aimerais vraiment... j'aimerais beaucoup la terre et pourquoi pas... le béton, c'est pas exceptionnel, mais moi, je trouve qu'au niveau élevage, c'est hyper intéressant. Donc, la terre et le béton, que ce soit le grès, la terre, le béton, c'est des choses qui m'intéressent.
T'interdis pas dans le futur des expérimentations autour de ces contenants ?
Ah non, pas du tout. C'est des choses que j'aimerais déjà faire, mais chaque chose en son temps. Il y a une réalité économique, puis une réalité de temps de travail, etc. Donc, pour l'instant, c'est du bois, beaucoup. Et puis, à l'avenir, peut-être quelques cuvées, en effet, dans des petits contenants en grès, en béton.
À suivre, 3 points de suspension.
Ah oui, j'espère qu'il y aura encore plein d'années à suivre et qu'on se reverra pour goûter des vins, ces vins-là dans 10 ans et puis des nouveaux vins dans d'autres types d'élevage, en effet. Ouais.
Tu envisageais de reconfigurer un petit peu ton domaine, peut-être de le diminuer un petit peu ?
Alors, je suis encore dans l'interrogation. Disons qu'économiquement, avec quelques années compliquées et puis peut-être des décisions un peu extrêmes au début, oui, l'idée, pour plus coller à ma vision du vin, peut-être réduire pour être tout seul sur une plus petite surface avec des plus petits volumes. Moins de charges financières, des élevages plus longs. Bon, peut-être perdre certains terroirs très intéressants, mais en tout cas, revenir à l'essentiel et vinifier des plus petits volumes pour faire de la meilleure qualité et diversifier aussi sur, pourquoi pas, des cidres, des poirées. L'idée, ça serait de mettre des arbres dans les vignes, un peu d'élevage dans les vignes, des poules, des moutons, enfin, peu importe. J'ai peut-être une vision un peu utopiste, mais j'ai envie d'essayer de faire ça. Et en fait, je me rends compte que vers où j'ai tiré, vers les 5-6 hectares, j'aurais clairement jamais les finances pour faire ça, ni le temps, ni voilà, ça me demandera d'embaucher des gens et tout, ce que je me rends compte que j'ai pas envie de faire. Donc je ferai marche arrière, la suite nous le dira, l'avenir nous le dira, mais c'est une réflexion actuelle, ouais.
Et ben on va te laisser à ta réflexion, puis poursuivre notre route sur les routes des Coteaux du Loir et de Janières. On se dit à une prochaine, Adrien.
Avec grand plaisir, et puis merci de vous être déplacé dans cette petite appellation qui clairement vaut le coup. Jean-Pierre l'a bien dit tout à l'heure, mais on espère vous revoir bientôt, et puis on goûtera tout ça ensemble sur l'évolution des vins de chacun, de tous ces vignerons qui étaient autour de cette table, ceux qui viendront, et puis ceux qui n'étaient pas encore là, et puis tous les jeunes qui vont s'installer, quoi, j'espère.
Allez, à la prochaine.
Merci.
Domaine de la Futaie, Adrien Delval, au cœur de Janières. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Nolwenn Moquet. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.